Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, en ce matin de jeudi de l'Ascension sur France Culture dans Chrétien d'Orient, nous allons vivre ce jour saint au regard de la tradition arménienne. Une fête qui est célébrée dans le temps d'une liturgie particulière. Jésus-Christ monte au ciel 40 jours après sa résurrection, après Pâques. Il a quitté ses disciples pour rejoindre son Père dans les cieux. Dans le monde orthodoxe, l'Ascension du Seigneur est l'une des 12 grandes fêtes. Elle marque la fin de sa présence visible sur terre. Pour évoquer cette fête, je suis avec Philippe Sukiassian. Vous êtes historien et diacre de l'Église apostolique arménienne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors vous êtes un habitué de notre émission. Je vous remercie à chaque fois de nous éclairer du point de vue théologique de l'Église arménienne et de votre regard d'historien aussi qui compte toujours. D'après Saint-Luc, l'ascension se produit à Béthanie, sans doute Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait. Saint-Matthieu, quant à lui, indique que c'est en Galilée que Jésus devait voir ses disciples avant de monter au ciel. La tradition, quant à elle, situe toutefois cette ascension au sommet du mont des Oliviers, à Jérusalem, où une église a été édifiée autour de la pierre qui recèlerait la dernière empreinte du pied de Jésus sur terre. Pouvez-vous nous rappeler le sens premier de cette fête qui nous réunit ce matin, cher Philippe ?
Alors, cette fête de l'Ascension est entrée dans le calendrier liturgique de l'église arménienne à peu près au 5e siècle, on pense. Le nom de la fête, c'est Hambartsum. Hambartsum signifie littéralement ascension, comme dans les langues occidentales, et vient du verbe Hamparnal en arménien qui signifie s'élever. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc cet épisode de la vie de Jésus est rappelé, est évoqué donc dans les évangiles et dans les actes des apôtres. C'est le moment où, à partir duquel Jésus va confier à ses disciples la mission d'évangéliser. Donc, les actes des apôtres nous disent « Il s'est présenté vivant devant eux avec de nombreuses preuves, parlant pendant 40 jours du royaume de Dieu ». Acte 1, 3, 4. Donc, pendant 40 jours après la résurrection, Jésus est aux côtés de ses apôtres et donc il continue d'enseigner et il va leur confier à la Pentecôte la mission d'aller évangéliser le monde. L'événement de l'ascension proprement dit est relaté en Luc 24, versets 50-51 et Matthieu 28, 18-20. On peut y lire « Puis il les emmena à Béthanie et là, levant les mains, les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et disparut au ciel. Puis le 40e jour, après avoir béni les disciples, il monta au ciel en leur disant « La paix soit avec vous, mes frères ». Puis il leur parla et dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Allez donc faire de toutes les nations et les disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Phrase clé. Alors, selon la tradition de l'Église arménienne, deux apôtres de Jésus, Thaddée et Barthélemy, a priori étaient présents lors de cet événement, et ils sont ensuite venus en Arménie apporter cette parole aux Arméniens. Alors, je voudrais dire que cette fête de l'Ascension, donc, on vient de la définir d'un point de vue théologique, mais elle a aussi une importance ecclésiale parce que ce jour-là, nous fêtons aussi un événement très important dans l'histoire arménienne. Au gré des événements politiques qui ont marqué le Moyen-Âge, le roi d'Arménie s'est déplacé, a quitté ce qu'on appelle la Grande Arménie, c'est-à-dire le territoire de l'Arménie actuelle, de la République d'Arménie et puis l'Arménie occidentale, et s'est rendu sur les côtes et s'est installé sur les côtes de la Méditerranée où s'est bâti un État arménien qui s'appelle le Royaume arménien de Cilicie. Et les catholicos ont suivi les rois d'Arménie jusqu'en Cilicie, se sont installés dans la capitale politique, on va dire, du royaume d'Arménie à Cis. Et en 1375, se produit l'événement catastrophe, on va dire, majeur dans l'histoire médiévale arménienne, c'est l'effondrement du royaume d'Arménie, c'est-à-dire que le royaume d'Arménie tombe sous les coups des Mamelouks, le roi d'Arménie s'exile, les catholicos demeurent à Cis, donc dans la capitale royale, mais un peu plus tard, en 1441, il y a un grand concile qui se réunit en Arménie du Nord, en Grande Arménie, et qui décide de ramener le siège catholicosal en Arménie. Donc ce jour de l'Ascension, nous fêtons à la fois l'Ascension du Christ et le retour, là on est dans l'histoire, hein, on est dans l'histoire arménienne, le retour à Etchmiadzin du siège catholicosal.
Donnez-nous un petit peu de géographie sur le siège du catholicosa actuel. Donc nous sommes dans la République d'Arménie, nous sommes au sud de Yerevan, je crois bien.
Sud-ouest, oui, de Yerevan. Bon. C'est la capitale historique. Alors, la ville d'Etchmiadzin s'appelait autrefois Varar-Shabbat, c'est-à-dire construite par le roi Varar-Shak. Et ce qui est intéressant, c'est que Etchmiadzin signifie le lieu où descendu le monogène, le fils unique, donc le Christ. Et curieusement, ce sont les soviétiques qui ont donné à la ville ce nom d'Etchmiadzin en 1945, qui ont décidé que la ville de Varar-Shabbat s'appellerait dorénavant Etchmiadzin. Et curieusement, c'est l'Arménie indépendante qui a rétabli son histoire. Et après l'indépendance de l'Arménie, la ville a repris son nom de Varar-Shabbat. Voilà, c'est un événement majeur que toute l'Église arménienne et le peuple arménien fêtent en même temps que l'Ascension.
Mais qui est fêté d'une manière religieuse de la même façon ou qui est un souvenir qui est proclamé peut-être ?
Non, alors pendant la divine liturgie qui est célébrée donc ce matin, donc le jour de l'Ascension, eh bien à un moment donné, on va interrompre la liturgie et il y aura un office d'action de grâce qu'on appelle Koapanakan Martang, c'est-à-dire des souhaits que l'on va chanter, qui sont dédiés donc à cet événement.
Le temps long continue aussi dans cette célébration, dans ces commémorations régulières.
Absolument, absolument.
Est-ce que c'est pour vous une spécificité de cette mémoire arménienne qui se transmet aussi de cette manière-là ?
Je crois, alors j'ai l'habitude de dire que ce qui caractérise sans doute les Arméniens, c'est la fidélité. C'est un élément majeur, on va dire, de l'ethno-psychologie, si vous voulez, des Arméniens, c'est-à-dire un grand attachement à la foi des pères, à la foi, tout court, à l'héritage, et à une volonté qui n'est pas un repli sur soi, ni un repli sur l'histoire, hein. C'est-à-dire comment continuer de vivre ces événements qui se sont inscrits, certes, dans l'histoire, mais qui continuent de nous faire vivre aujourd'hui, qui nous nourrissent spirituellement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la place qu'avait la fête de l'Ascension dans le calendrier de l'Église orthodoxe byzantine. Eh bien, dans l'Église arménienne, curieusement, c'est pas une des fêtes majeures. Alors, dans la tradition de l'Église arménienne, on a dans le calendrier liturgique 5 grandes fêtes majeures que l'on appelle les fêtes des tabernacles. Et c'est une expression qui nous vient de l'Ancien Testament, naturellement. Et donc, ces 5 fêtes des tabernacles, c'est tout d'abord la nativité, et nous on l'appelle nativité théophanie, c'est-à-dire celle de la manifestation de la divinité de Dieu, Pâques, la Pentecôte, la transfiguration et la dormition, c'est-à-dire l'assomption de la Sainte Mère de Dieu. Et ces fêtes majeures sont toutes précédées d'un carême et suivies d'un jour des défunts, où on fait mémoire des défunts. Et curieusement, cette grande fête de l'Ascension, qui est une fête importante quand même, hein, c'est-à-dire que il y a un grand nombre de célébrations ce jour-là, il y a des pèlerinages, donc ça n'est pas un petit épisode des évangiles ou de la vie du Christ. Donc c'est une fête importante, mais pas au point qu'on en ait fait une des 5 grandes fêtes majeures de l'Église arménienne. Alors cette liturgie du matin va se prolonger en fin d'après-midi par un office très particulier qui est l'office des rogations que l'on appelle en arménien antastan. Alors antastan, c'est un mot qui signifie chant aussi. C'est-à-dire qu'on bénit les champs et par-delà les champs, on va bénir la création. La création dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois la création, la nature et les hommes que Dieu a créé. Et donc cet office est particulièrement intéressant parce que autrefois on se rendait dans les champs. Alors aujourd'hui, la plupart du temps, cet office que l'on célèbre aussi donc ce jour de l'Ascension se déroule dans les églises et on bénit les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est-à-dire qu'on bénit tout l'univers et à chaque fois, on spécifie, alors par exemple, le nord est connu pour être la terre des monastères en Arménie, parce que dans la géographie, c'est une liturgie cosmologique. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes au centre de l'Arménie à Etchmiadzin, au nord, c'est le monde des monastères. Vous avez tous les grands monastères arméniens, mais aussi d'Albanie, de Géorgie. On bénit le sud, donc on va bénir donc Jérusalem, on va bénir donc la Terre Sainte. On bénit l'Occident, par exemple, les royaumes chrétiens, etc. Donc, vous voyez, il y a une dimension universelle à cet office aussi, et qui nous lie directement à l'Ascension aussi, et plus tard à la Pentecôte.
Philippe, une question pour que ce soit clair pour nos auditeurs, sur la temporalité, sur la question des calendriers. Donc, je mentionnais l'Église grégorienne, donc qui est l'Église apostolique, entre guillemets orthodoxe, et l'Église arménienne catholique aussi, en termes de calendrier, et sur le même calendrier que l'Église latine, sans dire de bêtises.
Tout à fait.
Qu'en est-il de l'Église apostolique ?
Tout à fait. Alors, l'Église arménienne apostolique a adopté le calendrier donc grégorien en 1924, hein, pendant la période soviétique. Il y a eu un mini-concile qui s'est tenu à Etchmiadzin. Je dis mini parce que les autorités soviétiques ne permettaient pas la tenue d'un grand concile. Il aurait fallu un grand concile. Mais devant l'impossibilité de réunir ce concile, le Saint-Synode, à l'époque, a décidé d'un certain nombre de petites réformes. Certaines sont importantes, par exemple le droit pour les femmes d'être élues, d'être éligibles, etc., dans les instances ecclésiales. Mais entre autres, on est passé au calendrier donc grégorien à cette époque. Et pendant très longtemps, par exemple, des communautés arméniennes de Russie, de Géorgie, de Grèce et de Terre Sainte continuer de suivre le calendrier julien. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas que pour la communauté arménienne de Jérusalem, pour la fraternité monastique de Jérusalem.
Donc nous pouvons dire qu'en ce moment même, ce matin, tous les Arméniens du monde, sauf ceux de Jérusalem, prient l'Ascension du Christ.
Tout à fait, et complètement en lien avec leurs frères catholiques, protestants, voilà. Tout à fait.
Vous êtes diacre, est-ce qu'il y a des prières et des chants particuliers qui sont des prières dites et des chants dans cette liturgie du
Oui, bien sûr. Alors, pour chaque fête importante, et même si la fête de l'Ascension n'est pas une des fêtes majeures, il y a ce qu'on appelle un canon. Et donc, pour cette fête de l'Ascension, il y a un canon, c'est-à-dire c'est une construction liturgique hein, qui inclut un certain nombre d'hymnes. Il y a une espèce de squelette commun, si vous voulez, une charpente, une structure commune à ces canons, qui débute par un hymne qui est dédié au Père, Créateur, au Fils, au Saint-Esprit, à la Mère de Dieu et au Saint. Et donc, pour la fête de l'Ascension, il y a particulièrement ce qu'on appelle un canon, donc, qui est chanté ce jour-là.
Vous étiez venu déjà dans notre émission, on avait évoqué l'église d'Issy-les-Moulineaux, si je me souviens bien. Est-ce que vous pouvez évoquer d'autres paroisses ou l'activité de cette paroisse en ce jour particulier, ou peut-être d'inviter nos auditeurs à vous retrouver dimanche prochain ?
Oui, écoutez, toutes les paroisses de la région parisienne, alors au-delà hein, de la France entière, hein, on a à peu près 25 paroisses actuellement en France, donc sont naturellement ouvertes et accueilleront tous les auditeurs et tous les fidèles qui voudront bien s'y rendre. Donc, en général, les offices, enfin, l'office du matin, les matines, les laudes, débutent aux alentours de 9h, et puis la divine liturgie, c'est-à-dire ce qu'en arménien on appelle le saint sacrifice, débute à 11h, en général, traditionnellement, dans toutes les églises apostoliques arméniennes en France.
Alors maintenant, Philippe, nous allons poursuivre notre exploration par le biais du voyage. Nous allons nous propulser dans les montagnes du Caucase et une région qui vous tient à cœur particulièrement, qui est le Karabakh, l'Artsakh, je crois, vous dites en arménien. Vous avez évoqué un monastère particulièrement important, le monastère ou l'église de la Sainte Ascension, avec un pèlerinage qui était important lorsque les Arméniens étaient encore au Karabakh.
Oui, alors, il y a peu d'églises l'Église. J'ai recherché un petit peu en préparant cette émission. Il y a assez peu d'églises qui sont placées sous ce vocable de la Sainte Ascension. Alors, il y en avait en Russie, il y en a toujours en Russie en particulier. Mais en Arménie, ce qu'on appelait l'Arménie occidentale, hein, qui se trouve aujourd'hui dans les frontières de la République turque, il y avait un certain nombre de lieux importants. Mais surtout, ce qui a retenu mon attention, c'est que deux lieux que j'ai connus en plus, dans lesquels je me suis rendu, étaient réputés pour leur pèlerinage de l'Ascension. Alors, ce pèlerinage de l'Ascension, il avait une dimension purement religieuse, c'est-à-dire que on allait effectivement fêter cet événement de l'Ascension du Christ, mais aussi c'était l'objet de rites et de rituels profanes. Et en particulier, il y avait ce qu'on appelle donc, en gros, une fête des fleurs ou du printemps. Et là, on peut considérer que, comme dans beaucoup d'autres fêtes, alors, je sais que dans le temps, vous aviez fait une émission très intéressante avec Anaïs Termination sur la transfiguration. Et la transfiguration, par exemple, se double, la commémoration religieuse se doublait aussi d'événements, on va dire, plus populaires, d'une fête qu'on appelle le Vartavar, hein, et qui est une réminiscence, on va dire, de la période païenne. Eh bien, il en est de même pour l'Ascension. Il y a une fête que les Arméniens ont désigné sous différents noms populaires, la fête du Jan Gulum, la fête du Vijag. Le Vijag, c'est le fait de tirer au sort. Et donc, il y avait une dimension à la fois fête des fleurs, si j'ose dire, où on fêtait les fleurs. On disait Kovel Tsariknere, c'est-à-dire vanter, dire, louer les fleurs. C'est un retour, naturellement, c'est en lien avec le monde païen arménien où on vénérait la nature, hein. Et donc, on est au moment du printemps, hein, on est au début du printemps. Et donc, cette fête se doublait dans sa dimension populaire par des pèlerinages pendant lesquels on procédait à ce qu'on appelait le tirage au sort. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais ce tirage au sort concernait le destin des jeunes filles du village. Et donc, on mettait dans un pot de terre de l'eau, et chaque fille mettait un petit objet qui lui appartenait à l'intérieur. Et ensuite, il y avait un tirage au sort, et on pouvait prédire, dit-on, l'avenir de ces jeunes filles. Alors, la première devait se marier promptement, etc. Mais ça pouvait être aussi des mauvais sorts, des sortilèges négatifs. Et donc, ces lieux de pèlerinage étaient aussi un lieu de réjouissance populaire. Donc, j'en ai retenu deux. Un qui, malheureusement, risque de disparaître, c'est l'église de la Sainte Ascension, qui se trouve dans le district de Latchin et qui est aux portes de l'Artsakh, hein, du Haut-Karabakh. Alors, cette église est assez récente. Elle a été construite en 1998. C'était une très belle église, extrêmement élégante, construite dans le plus pur style architectural arménien. Et visiblement, donc, il semblerait que l'Azerbaïdjan ait décidé de transformer cette église, donc désormais en mosquée. Et puis, il y a un deuxième lieu de pèlerinage, toujours en Artsakh, dans un petit village qui s'appelle Sortorachen, dans lequel il y a un platane absolument énorme, d'un diamètre de 27 mètres, qui est énorme et qui était un lieu de pèlerinage, justement, de l'Ascension. Et puis, je retiendrai un troisième lieu, qui est en République d'Arménie, qui est le monastère de Sainte Varvara. Alors, dans la tradition arménienne, on fête en même temps cette Sainte Varvara le jour de l'Ascension. C'est une sainte du 5e siècle, une martyre. C'est Sainte Barbe aussi, ou Sainte Barbe dans la tradition catholique. Et elle meurt martyre au 5e siècle. Elle est tuée sur l'ordre de son père. Et un monastère, donc, sur les flancs du mont Araï en Arménie, continue d'être le lieu pour le jour de l'Ascension de ce pèlerinage, pour lequel on dit que il peut avoir un caractère thaumaturgique, c'est-à-dire que Sainte Barbara, avant de mourir, aurait émis le vœu que les enfants atteints de la varicelle et de la rougeole soient épargnés. Curieusement, la varicelle s'appelle en arménien tsarik, c'est-à-dire la fleur. Et donc, vous voyez, il y a un lien avec cette fête des fleurs et ce souhait de Sainte Barbara avant de mourir. Et donc ce lieu de pèlerinage est un lieu de pèlerinage extrêmement vivant jusqu'à nos jours. C'est un monastère troglodytique, très beau, sur les pentes du mont Aray, tout près de Yerevan, la capitale de la République d'Arménie actuelle.
Vous y êtes allé ? C'est un pèlerinage que vous avez vous-même accompli ?
Non, personnellement, celui-ci, je ne l'ai malheureusement pas encore fait, mais je me réserve dans ma prochaine visite en Arménie. Il faudra qu'on prenne une journée pour se rendre à ce monastère de Sainte Varvara.
Quelques mots pour expliquer à nos auditeurs la symbolique forte que représente le Haut-Karabakh pour les Arméniens. Vous évoquez dans un petit texte que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer une sorte de mont Athos par le nombre des monastères. Est-ce un lieu politique, un lieu spirituel, les deux à la fois peut-être ?
C'est avant tout un lieu spirituel pour nous. D'abord parce que les monastères ont une grande importance dans la vie spirituelle des Arméniens, dans l'histoire de l'Église arménienne. C'est-à-dire que le monachisme a marqué pendant des siècles l'histoire et la spiritualité de cette Église. Et donc, vous avez raison de l'évoquer, un grand nombre de monastères. Alors, avant la soviétisation de la région, il y avait plus de 800 églises et monastères dans la région. Parmi lesquels les deux ou trois sont des monastères prestigieux, le monastère de Gansasar, le monastère de Dadivank, qui sont aujourd'hui extrêmement menacés, et puis un monastère qui a vraiment une très très grande importance pour nous, alors qui d'un point de vue architectural, je vous le concède, n'a rien à voir avec les grands prestigieux monastères du nord de l'Arménie ou Gansasar, c'est le monastère d'Amaras, qui est un lieu extrêmement simple et humble, mais qui est un lieu extrêmement à la symbolique très forte, puisque c'est le lieu où Saint Meslop Mashtots, le créateur de l'alphabet au 5e siècle, a ouvert sa première école. Et cette première école, il l'ouvre pour évangéliser. Parce que le but, c'est de rendre accessible aux Arméniens la parole du Christ, les évangiles, et la liturgie qui était célébrée en grec et en syriaque. Et donc, Amaras est un lieu, le premier lieu, si vous voulez, de la fondation de la scolastique arménienne, et c'est un lieu d'évangélisation. C'est de là que sont partis, par exemple, ceux qui vont évangéliser le nord de la région, ce qu'on appelle l'Albanie du Caucase. Et Amaras, qui a été... Le premier lieu d'enseignement de l'arménien est le lieu aussi où repose Saint Grigoris, qui est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est l'évangélisateur des Albaniens du Caucase. Et Saint Meslop Mashtots a inventé aussi, non seulement créé l'alphabet arménien, mais aussi a créé deux autres alphabets, un alphabet pour évangéliser les Géorgiens et un autre pour évangéliser donc les Albaniens du Caucase. Et donc, ces lieux sont pour nous avant tout des lieux où la spiritualité arménienne est née et d'où est partie l'évangélisation pratiquement de tout le Caucase. Donc, vous voyez, c'est pas des lieux qui sont anodins. Ce patrimoine, malheureusement, est extrêmement menacé aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je crois, on annonçait la destruction d'une des églises de Chouchi, Chouchi qui était la capitale du Haut-Karabakh. Chouchi comptait avant les derniers événements, enfin, au début, plus exactement, aux alentours 1920, elle comptait 5 églises arméniennes. Aujourd'hui, 4 ont disparu, ont été détruites, il n'en reste plus qu'une.
Que savons-nous sur les 120 000 Arméniens qui vivaient au Haut-Karabakh ?
Alors, les 120 000 Arméniens du Karabakh, je voudrais quand même dire que là, on a, entre guillemets, la communauté internationale a réussi quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'en 24 heures, les 120 000... Alors, 120 000, c'est le nombre de ceux qui ont fui au moment de l'agression de septembre 2023. Mais il y en avait 45 000 autres auparavant qui s'étaient déjà réfugiés après la guerre de 2020 en Arménie. C'est-à-dire que là, les 150 000 Arméniens qui demeuraient au Haut-Karabakh sont pratiquement tous en Arménie. Il semblerait qu'à peu près 10 000 d'entre eux aient émigré vers la Russie.
Vous vivez, vous êtes français, vos parents, grands-parents sont peut-être venus de ces contrées lointaines à une époque plus ou moins récente. Comment vit-on dans la diaspora ? Je ne sais pas si c'est un terme que vous appréciez, vous allez me le dire. Ce lien avec une terre des origines, comment vous êtes assez particulier, vous êtes diacre, vous êtes historien, vous avez une connaissance, vous enseignez aussi à l'Institut chrétien d'Orient. J'ai vu cette belle programmation. Vous êtes un transmetteur, donc vous êtes passionné par cette histoire et vous la transmettez aux générations futures. Comment vous avez réussi à maintenir ce lien avec l'Arménie ?
Alors je crois, au début de l'émission, je parlais de fidélité. Donc il y a vraiment là, il y a cette notion de fidélité qui est très importante. C'est-à-dire que je suis ce que je suis, c'est-à-dire je suis le fruit d'une histoire et je ne peux pas ni me dessaisir moi de cette histoire et ni même mes enfants. C'est-à-dire que comme je ne peux pas déshériter mes enfants d'un point de vue pécunier, d'un point de vue économique, je ne peux pas aussi renoncer pour eux et pour les générations à venir à cet avenir, à cette histoire. C'est très important. Un homme sans racine, voilà, c'est comme un arbre sans racine, c'est-à-dire il meurt. Et donc, cette fidélité s'explique ainsi, c'est-à-dire que je ne pourrais pas être aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire un Français très épanoui en tant que tel, si je n'avais pas à cœur de préserver cette, et de transmettre cet héritage, voilà.
Un héritage qui se transmet par la connaissance, mais par la pratique aussi, la pratique religieuse.
Par la pratique, bien évidemment. Je pense que là, il faut pas donner à cette transmission un caractère purement, on va dire, d'érudition, etc., de savoir. C'est-à-dire que cet héritage doit nous permettre, c'est un viatique, si vous voulez, pour vivre au quotidien et pour vivre notre quotidien ici, en Occident. Voilà. On a une église que l'on dit encore orientale, mais qui l'est de moins en moins. Vous avez l'amabilité de m'inviter dans le cadre d'une émission qui est consacrée aux églises d'Orient. Aujourd'hui, la majorité des Arméniens, la très grande majorité, puisque c'est à peu près... Alors, il y a 10 millions d'Arméniens au monde, 3 millions qui vivent à peu près dans les frontières de la République d'Arménie, mais 7 millions qui vivent dispersés dans le monde entier. Et vous savez fort bien quelle est la situation actuelle des chrétiens et en particulier aussi des Arméniens au Proche et au Moyen-Orient. C'est-à-dire que on a assisté à l'érosion démographique des communautés arméniennes d'Iran, par exemple 350 000 Arméniens avant la Révolution. Au Liban, à peu près autant. Syrie, Liban, eh bien aujourd'hui, ces communautés sont réduites à une peau de chagrin. Et donc, la majorité de ces chrétiens orientaux vivent aujourd'hui en bon occidentaux, c'est-à-dire sur le continent européen et en Amérique du Nord.
Et les églises qui se sont constituées en France et ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, servent justement à continuer à transmettre cette tradition et à servir de réceptacle aussi à ces Arméniens qui continuent à fuir.
Oui, alors historiquement, l'église arménienne, alors on a l'habitude de dire, je crois que c'est le patriarche Orbanian qui disait, l'église est l'âme absente de la nation arménienne. C'est-à-dire que à partir du moment où l'État arménien a disparu, en 1375, l'Église est devenue, dans tous les sens du terme, la mère de la nation arménienne. Et on a parfois du mal à séparer ces deux missions, on va dire. Beaucoup de gens ne font pas bien le distinguo. C'est un des problèmes, d'ailleurs, qui est commun, je crois, à beaucoup d'églises d'Orient. C'est-à-dire que on sait jamais à quel moment elle est encore dans sa mission, on va dire, spirituelle et dans quelle mesure elle n'est pas devenue une institution plutôt politique, éducative, culturelle. Et donc, on essaye au mieux de vivre cette dualité, on va dire, à travers la vie de nos églises en diaspora aujourd'hui.
Je voudrais que nous ayons une petite pensée particulière pour une amie commune qui était une habituée de cette émission. Vous avez mentionné le nom tout à l'heure, Anaïde Termination, voilà, qui venait très régulièrement évoquer l'histoire de l'Église arménienne,
oui,
et des traditions.
Et qui est pour moi l'incarnation de ce qu'on évoque, c'est-à-dire que le pur fruit, on va dire, de l'école française, agrégé de la première génération des enfants des rescapés du génocide, est pétri naturellement de cette histoire, de cet héritage arménien qu'elle a magnifiquement présenté pendant des années à travers son enseignement et puis les milliers d'interventions qu'elle a faites.
Une dame d'une grande érudition, d'une grande humanité aussi, qui continue à voyager beaucoup et à accomplir des pèlerinages.
Oui, oui, elle avait accompagné en particulier un pèlerinage dans la région d'origine de ses ancêtres, de ses parents et grands-parents, à Mouche et dans le Sassoun.
Merci beaucoup Philippe Sukiasan d'être venu jusqu'à nous en ce jeudi matin de l'Ascension. Je remercie Louise Devillard pour la réalisation de cette émission, Marie Dalquier et Antoine Viossa pour la technique. Nous retrouvons maintenant Solae, le rendez-vous protestant. Bonne journée. Thank you.
Thank you.